parce que beaucoup de choses ont été dites et bien dites, et donc je ne vais pas les redire. Quelques observations. Je vais plaider par observation. Tout d'abord, attention à ne pas limiter la question de la justice prédictive à un bilan coût-avantage. C'est-à-dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent, et ça me semble réducteur parce que elle pose quand même beaucoup de problèmes à beaucoup de niveaux et qui sont escamotés, comme si on était fasciné par la technique. Et j'attire votre attention sur le temps grammatical qui est utilisé quand on parle de la justice prédictive. En fait, on utilise ce que en rhétorique on appelle la prolepse, c'est-à-dire qu'on parle au présent de quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui va exister. Et encore, si on creuse encore plus, c'est une figure religieuse d'ailleurs, qui doit exister, qui nécessairement arrivera, mais n'est pas encore là. Si on fait le bilan de la justice prédictive, on voit énormément d'annonces, on voit des expérimentations, on voit des tas de choses dans le monde entier, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que ça marche pas très bien, ou dans le fond c'est pas vraiment, il n'y a pas tellement de plus-value, ou il y a une nouvelle présentation. Donc première observation, je crois qu'il faut être très 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 prudent sur la savoir de quoi est-ce qu'on parle. Deuxième distinction, vous avez rencontré beaucoup de boîtes qui vont faire de la quantification du paramétrage du travail des juges. Alors c'est doctrine.fr maintenant, c'est gratuit d'ailleurs, hein, les avocats français sur Doctrine peuvent voir, on peut leur donner tout leur pédigré, toutes les affaires qu'ils ont plaidées, celles qu'ils ont gagnées, celles qu'ils ont perdues, etc. Si vous allez regarder sur Internet l'Ex Machina qui est racheté par LexisNexis, qui est une grande legal tech américaine, l'Ex Machina va faire ça pour tous les juges. Alors c'est très intéressant pour le juge, on va dire, le juge Smith, il est juge depuis 37 ans, il a rendu tant de décisions dans telle affaire, ses décisions sont comme si, il a cité tel jugement, il a été cité tant de fois, etc. Et on fait une radiographie de la production avec des considérations stratégiques, par exemple sur l'Ex Machina, vous dites quel est votre adversaire, il a eu la law firm, elle a fait combien de dossiers en propriété intellectuelle, elle en a gagné combien, quelle a été son attitude en cours. Alors après, ça va même un peu plus loin. On peut dire, par exemple, dans la procédure américaine, le juge Smith, il a une tendance à rendre au bout de 147 jours une décision de non-lieu et pour telle raison. Alors ça, c'est plus intéressant à savoir. Donc, si vous connaissez le juge, vous connaissez l'autre partie, vous savez quelles sont les habitudes du juge, comment il décide, à quel moment. Et puis après, on peut continuer. Bon. Mais tout cela donne en fait des données chiffrées qui sont bien présentées, qui sont croisées. Donc c'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'intelligence artificielle dedans. Il y a simplement des données. Alors ça a une répercussion importante. J'y viendrai en ce qui concerne le droit. Si j'ai une minute. Le prédictif, c'est pas la statistique. C'est pas la statistique. La statistique, c'est, pour prendre un exemple médical, c'est tous les hommes qui ont plus de 65 ans ont une propension de faire développer un cancer de la prostate. Bon. L'instrument d'intelligence artificielle va dire non pas une catégorie statistique, mais va apporter la fiabilité d'une observation scientifique calculée sur une personne, et c'est pas non plus telle catégorie d'âge, mais c'est John Smith, il va, en raison de de ses habitudes de vie, de son patrimoine génétique, de ses données médicales dont on dispose, et puis de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, eh bien, il a 433% de chances de développer tel type de cancer du rein à tel moment de sa vie. Donc là, c'est beaucoup plus précis. Donc, il ne faut pas confondre le prédictif et la statistique. Quand on regarde les gens qui font vraiment... qui mettent vraiment de l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, c'est bon. Alors, ça pose par exemple, il y a une distinction qu'il faut faire parce que certaines boîtes proposent de dire, c'est la majorité d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup font de la mobilisation de documentation juridique rapide, efficace, en langage naturel. C'est déjà beaucoup. Mais ça permet d'aller très très vite. Bon, alors j'attendrai une distinction entre la legal tech qui prétend dire quelle va être la solution en fonction de ce que vous m'avez dit. Alors vous pouvez le voir sur votre portable, hein, c'est accessible, maintenant c'est très très banal, revenu de monsieur, revenu de madame, nombre d'enfants, mode de garde, modalité du jugement de divorce, boum, et vous avez les prestations compensatoires, les pensions alimentaires apparaissent avec sur des fromages, donc c'est gratuit, c'est sur votre portable, et c'est tout le monde peut le faire. Alors, il y a une boîte en France qui, à mon avis, est la plus intéressante, Caselaw Analytics, qui fait quelque chose de plus subtil. Parce qu'elle dit, le piège de prétendre dire la solution, comme si elle n'avait qu'une, dans un sens dworkinien, on pourrait dire, hein, la bonne solution, voilà. Ça entraîne des effets performatifs sur lesquels on pourra revenir, mais vous avez bien expliqué le risque. Alors eux disent, moi je vais repérer comment les juges décident, et en fonction de ça je vais dire, en fonction d'une question soulevée, qu'est-ce que déciderait 100 juges français de rang équivalent. Vous avez un problème de licenciement abusif. Eh bien, la machine va dire, de manière assez précise, va dire, eh bien, sur 100 juges qui jugeraient cette affaire aujourd'hui, le 22 février 2018, eh bien, il y en aurait 73 donneraient 18 mois d'indemnisation, 12 donneraient plutôt 9, etc., etc. Alors ça, c'est beaucoup plus précis, et... à mon avis, c'est très intéressant, ça va poser des problèmes, mais on en parlera tout à l'heure. Je ne voudrais pas être long, je voudrais dire le prédictif, il y a aussi des idées qui apparaissent et qui montrent que derrière la justice prédictive, il y a des questions qui sont beaucoup plus fondamentales qui se posent. Il y a une question d'abord, c'est que vous l'avez dit d'ailleurs, hein, monsieur le bâtonnier, c'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement de prédire ce que va être une affaire individuelle, mais il s'agit de dire la réalité du droit, la vérité du droit. Si on retient avec Oliver Wendell Holmes cette fameuse phrase fondatrice du réalisme américain qui dit le droit c'est ce que décideront les juges, point barre, le reste c'est de la poésie, c'est pour les professeurs, c'est pour l'enseignement, etc. Ça veut dire que ce que vont dire ces logiciels prédictifs, c'est ça le droit fait par des ingénieurs sur des calculs, et bon. Alors, il y a un avocat français qui a fait une démonstration, il était très convaincante, mais très troublante aussi. Il dit, moi, en matière de licenciement, c'est un avocat qui a des robots juridiques qui fonctionnent bon, depuis très longtemps, etc. Il dit, moi, j'ai établi une courbe normative. Donc, tout ce que vous me dites, monsieur le juge, c'est très bien, c'est, dites-le à vos étudiants, dites-le, mais moi je vais vous dire, le licenciement en France, c'est ça. C'est une courbe, elle commence au début